Nous revoici ensemble pour une nouvelle édition de la synergie des radios Inzamba, Agathe Kakawe et RPA et la télévision Renaissance, un triste événement qui nous rassemble à nouveau puisque ce 11 décembre 2020, c'est la 5e commémoration des massacres et autres crimes commis les 11 et 12 décembre 2015. C'était dans les quartiers qualifiés de contestataires par le pouvoir. Il s'agit principalement de Mutakura, Ngagara et Chibitoke. C'était en représailles à des attaques qui avaient été menées sur 4 camps militaires par des hommes armés. Les victimes des assassinats ou encore des viols qui s'en sont suivis se comptent par dizaines, voire plus. Témoins, défenseurs des droits de l'homme, avocats des victimes, toutes ces voix s'expriment dans cette édition. Un journal qui vous est présenté par Franck Kazé et Nadège Irakosé.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le journal de la synergie des médias. À l'aube du 12 décembre 2015, 4 camps militaires ont été attaqués simultanément, 3 à Bujumbura et un autre dans la province de Bujumbura. Les assaillants ont été repoussés après plusieurs heures d'intenses affrontements. Le rappel des faits avec Bertrand Gendakuriyo.
Tout a commencé vers 4 heures du matin. Dans plusieurs quartiers de la ville de Bujumbura, les habitants ont été réveillés par des coups de feu et des tirs à l'arme lourde sans savoir ce qui se passait. Les premières informations n'ont commencé à fuiter que dans la matinée. Des insurgés armés ont attaqué 4 camps militaires, 3 de la mairie de Bujumbura et le camp de Mujejulu dans la province de Bujumbura. Le premier à être attaqué est situé en Ngagara, en commune de Nangwa. Le second étant le camp base logistique des forces de défense nationale. Le troisième, l'Institut supérieur des cadres militaires, ISCAM. Tous les deux sont dans la zone de Musaga, une zone qui abrite plusieurs camps militaires. Les insurgés se sont servis en armes dans le camp base avant de s'introduire dans l'ISCAM. À ce moment, les insurgés ont été attaqués par des militaires venus d'une autre caserne toute proche. Il y a eu de violents affrontements qui ont duré plusieurs heures avant que les assaillants ne décrochent. Selon le porte-parole de l'armée de l'époque, le colonel Baratouza, les assaillants avaient l'intention de pénétrer dans les camps pour se procurer des armes et des munitions pour libérer ensuite des prisonniers dans différentes prisons. De nombreux riverains des camps attaqués ont fait état de combats particulièrement violents marqués par des explosions et des tirs nourris d'armes automatiques. Des échanges de tirs sporadiques ont continué en milieu d'après-midi dans divers quartiers contestataires de Bujumbura, quadrillés par l'armée et la police.
Merci Bertrand Gendakuriyo. Côté statistique, au moins 80 personnes ont été tuées après les attaques menées sur 4 camps militaires de Bujumbura dans la nuit du 11-12 décembre 2015. Ce chiffre a été précisé par le porte-parole de l'armée de l'époque, le colonel Gaspard Baratouza. La plupart de ces assassinats ont été commis par des éléments des institutions de la police et de l'armée en charge de la protection des institutions de la police anti-émeute et des immeubles coulés. La plupart des victimes ont été enterrées dans des fosses communes. Le point avec Emmanuel Niungeko.
Depuis le 12 décembre 2015, les agents de ces corps avaient déjà envahi et entièrement bouclé des quartiers dits contestataires au troisième mandat de feu président Pierre Nkurunziza. Ils tiraient sur tout jeune qu'ils croisaient à leur passage, arguant être à la recherche des rebelles qui venaient de mener des attaques sur 4 camps militaires, les camps Ngagara, Muha, l'Institut supérieur des cadres militaires situé dans la municipalité de Bujumbura, ainsi que la 120e brigade de Mujejuru située dans la province de Bujumbura. Après avoir escaladé les clôtures des ménages, et parfois même défoncer les portes, ces policiers tiraient également sur ceux qui étaient à l'intérieur. Les quartiers ciblés étaient surtout ceux de Ngagara, Nyakabiga, Jabe, Chibitoke et Musaga. La journée du 12 décembre 2015 a été caractérisée par des représailles contre des jeunes Tutsis et des opposants du régime. Les cadavres jonchaient les rues, laissant les familles des victimes dans la désolation. Vers la mi-journée du 12 décembre 2015, le colonel Gaspard Baratouza, porte-parole de l'armée burundaise d'alors, dresse le bilan.
Côté ennemi, 79 tués, 45 capturés, 97 armes et beaucoup de munitions saisis.
S'adressant à l'agence France Presse, le colonel Gaspard Baratouza a également déploré la mort de 4 militaires et 4 policiers ainsi que 21 blessés côté forces gouvernementales. Dans la foulée, les organisations de la société civile ont documenté des centaines de jeunes gens tués puis jetés dans des fosses communes. On se tirait ici ceux qui ont été enterrés en zone Kanyosha, commune Muha, dans la municipalité de Bujumbura et au cimetière de Mhanda, en commune Gihanga, de la province Bubanza. Selon des sources concordantes et dignes de foi, le rôle majeur des Imbonerakure sélectionnés par le pouvoir sur base de leur virulence dans cette opération était de collecter les cadavres des victimes puis les enterrer dans les fosses communes. Jusqu'aujourd'hui, aucune enquête n'a jamais été menée pour éclairer l'opinion sur ce carnage.
Merci Emmanuel Niungeko. Les policiers du camp de l'appui de la protection des institutions API sont cités comme auteurs des attaques et des massacres qui ont suivi dans les quartiers de Mutakura, Chibitoke, Ngagara, au nord de Bujumbura. Le soir, des camionnettes des chefs de zone municipale ont été utilisées pour transporter les cadavres. Suivez ce témoignage d'un rescapé de ces massacres.
Ils ont obliqué au camp municipal dans le quartier 9 où est situé le camp abritant les policiers de l'API pour la protection des institutions, API notamment le président de la République. Ils sont venus dans des camionnettes pick-up, des jeunes voisins de Ngagala, parce qu'on habitait le quartier Chibitoke voisin. Un certain Olivier a été achevé dans la foulée derrière le camp dans le quartier 2, près d'un centre de dépistage du diabète. Un certain Joris a été enlevé, des alertes sur les réseaux sociaux ligoté. En certains jours, ça a été enlevé. On a vu des alertes sur les réseaux sociaux. On a trouvé ligoté devant le camp. Il a été trouvé plus tard cadavre. Emmanuel a été poursuivi et a été tué près du bar chez Ndabunganye en Ngagara. La majorité a été déportée. Les autres ont été déportés aussi dans le quartier 5, par exemple. Toute la journée était presque noire. Le soir, on a commencé à voir les camionnettes des chefs de zone portant de cadavres. Ils ont emprunté la route menant vers Buterere, la route baptisée chez Uchonyori en Ngagara. Les cadavres étaient couverts de bâches, ils sont jonchés dans la route.
Et puis, des familles de certaines personnes arrêtées le 12 décembre 2015 n'ont plus retrouvé les traces des leurs. Parmi ces personnes figure Joris, un jeune qui habitait le quartier Chibitoke, au nord de la ville de Bujumbura. Dans son récit, sa sœur Bertie Lakosé raconte comment s'est passée la journée du 12 décembre 2015. Elle parle des cris de détresse des voisines en train d'être violées et de la nouvelle de l'arrestation de son frère. On l'écoute.
Nous avons été réveillés par des coups de feu, c'était entre 5 et 6 heures du matin. Aux environs de 7 heures, nous avons appris la mort de Thierry Wamaholo. Son garçon vie a été découvert au quartier 5 en Ngagala. C'était un ami de mon frère, Joris. Nous avons appris son arrestation vers 9 heures en voyant sa photo circuler sur les réseaux sociaux. Des policiers sont entrés dans le quartier entre 11 et 12 heures. Ils ont commencé à tirer. Nous habitions la 14e avenue. Les gens se sont enfermés chez eux. Quand on a fui le pays, les impacts de balles étaient toujours visibles sur les portails. À la 15e avenue, nous avons appris qu'il y a eu des viols. On entendait des cris de détresse. Les tirs se sont intensifiés à 12 heures et nous avons appris par la suite que Bunyoni et Désiré Wamaholo étaient venus réclamer Joris aux militaires. Que les militaires ont refusé de le livrer à Grand, qui n'avait pas été arrêté par la police. Joris a finalement été remis à un policier nommé Pascal Bandava, signant son grade. Depuis lors, nous l'avons cherché partout, mais sans succès. À cause de ça, ma mère souffre de chagrin. Que justice soit faite pour mon frère.
Suivez toujours le journal de la synergie des médias. Au cours de cette crise que traverse le Burundi depuis 2015, le viol a été érigé en arme de guerre. C'est l'avis de Marie-Louise Valichako, présidente du mouvement Ina Maholo, des femmes et filles pour la paix et la sécurité. Pour elle, le pouvoir du parti CNDD-FDD, auteur des massacres du 11 et 12 décembre 2015, 2015, a choisi le viol comme une de ses stratégies pour exprimer cette haine qu'il affiche envers les femmes et les filles des partis de l'opposition. Écoutez Marie-Louise Barichako.
Parmi les victimes de ce jour, des femmes et des filles ont été violées en grand nombre, souvent devant leurs époux, devant leurs enfants, leurs pères, leurs frères, les voisins et même devant les attaquants. On se souviendra de la chanson publiquement scandée par les Imbonerakure, engrosser les opposants pour qu'ils donnent naissance aux Imbonerakure, pour déterminer que dans cette crise que vit le Burundi depuis avril 2015, le viol a été érigé en arme de guerre. Rien d'étonnant donc que les militaires, les policiers et les Imbonerakure, auteurs des massacres et violences du 11 et 12 décembre, aient choisi le viol comme une de leurs stratégies pour intimider, humilier et avilir les femmes et les filles pour toucher profondément leur famille et leur groupe politique ou ethnique. Le mal burundais est un mal purement sociopolitique que les dirigeants ont tout fait pour transformer en conflit ethnique sans succès à ce jour. Si l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi avait été mis en application depuis que le CNDD-FDD a accédé au pouvoir en 2005, le Burundi aurait déjà tourné la page de son histoire de crise cyclique pour écrire une nouvelle histoire de paix, de sécurité et de développement durable pour tous, sans distinction.
Les auteurs des crimes des 11 et 12 décembre 2015 à Bujumbura sont connus. Il s'agit des agents des forces de sécurité ainsi que des Imbonerakure. C'est l'avis de Denis Ndayishemeza, vice-président du Forum pour la conscience et le développement, qui qualifie ces crimes d'innommables. Le FOCOD réclame des enquêtes indépendantes pour que les coupables soient identifiés et punis. Suivez Denis Ndayishemeza.
Aujourd'hui, c'est le cinquième anniversaire du carnage qui a eu lieu principalement à Bujumbura, dans la capitale burundaise, mais aussi dans certaines parties de la province de Bujumbura, où il y a des éléments rebelles qui auraient attaqué des camps militaires dans la ville de Bujumbura et dans Aïgenda. Et puis, comme représailles, nous avons vu des forces de l'ordre, des forces de sécurité, la police, l'armée et des agents de renseignement qui étaient épaulés par des miliciens Imbonerakure qui se sont rués sur les paisibles citoyens dans des quartiers qui sont dits contestataires à Bujumbura, des quartiers où résidaient les gens qui avaient le plus manifesté contre le troisième mandat de Pierre Nkurunziza. Alors, ils ont commencé à tuer aveuglément, à commettre toute forme d'abus, les massacres, les tortures, les viols sur des femmes. Donc, c'est ça vraiment été un carnage complet ce jour-là. Donc, s'agissant des responsables, on se rappellera toujours des déclarations de celui qui était alors le porte-parole de la FDN, aujourd'hui général Gaspard Baratouza. Il a fait plusieurs déclarations, les unes contradictoires que les autres. Donc, les responsables, c'est bien sûr le gouvernement du Burundi d'abord, ensuite ses organes comme l'armée, la police, le service national de renseignement et les miliciens Imbonerakure qui appuyaient, qui sont devenus comme des supplétifs des forces de l'ordre. Mais pour le moment, sans enquête indépendante, il est vraiment difficile de dégager des responsabilités individuelles et on n'aimerait pas toujours dire c'est l'armée, c'est la police, c'est le renseignement, ce sont les Imbonerakure ou c'est le gouvernement. On aimerait qu'une enquête crédible soit diligentée afin que des responsabilités individuelles soient dégagées.
Les crimes qui ont été commis les 11 et 12 décembre 2015 sont qualifiés de crimes contre l'humanité. Précision de Maître Bernard Minguin, un des avocats du collectif des avocats pour la défense des victimes des crimes de droit international commis au Burundi. Suivez Maître Minguin.
Je me rappelle très très bien de ces journées qui étaient marquées d'une croix très très noire et qui sont des journées de deuil pour toute la communauté burundaise. Je me rappelle très très bien les comptes rendus que je recevais tout à fait effrayés de nombreux amis présents à Bujumbura. Sur le plan juridique, je pense qu'on peut vraiment qualifier ces crimes de crimes contre l'humanité au-delà de ce qui est prévu même par le code pénal burundais. La tragédie du Burundi, c'est que les textes existent, les qualifications existent, les possibilités en termes procédurales de poursuivre existent, mais tout ça est sans effectivité. Donc on se trouve dans une situation où ces attaques délibérées qui ont été dirigées contre la population civile au prétexte d'une attaque de camp militaire, ces attaques-là, elles ont été systématiques, elles ont été ciblées vers un groupe bien défini, qui était le groupe de l'opposition, ou des quartiers bien définis au niveau de la composition sociologique de ces quartiers. Et donc on est vraiment dans des cas de qualification de crimes contre l'humanité, mais aussi de crimes qui auraient pu être poursuivis au Burundi. Et c'est bien ça la tragédie qui se passe, c'est qu'en réalité, notre collectif n'aurait jamais dû faire autant d'efforts et aller devant la Cour pénale internationale. Si les textes du code pénal burundais avaient été simplement appliqués, les auteurs des crimes auraient été déjà traduits en justice au Burundi. Et je voudrais ici rappeler une chose, c'est qu'en application du droit burundais, lorsque l'auteur du crime est une force de l'ordre, c'est souvent une circonstance aggravante.
Maître Bernard Minguin justifie les enquêtes de la Cour pénale internationale sur le Burundi par le fait que la justice burundaise reste inactive pour réprimer ces crimes. Encore une fois, Maître Bernard Minguin.
Les assassinats sont réprimés à l'article 215 du Code pénal burundais, les enlèvements à l'article 257, les actes de torture aux articles 206 à 211, les viols aux articles 577 à 585. Alors, si vous preniez les dispositions du code burundais, je dirais que la sanction pour l'assassinat, c'est évidemment la servitude pénale à perpétuité. En ce qui concerne les actes de viol, de torture et d'enlèvement, les actes d'enlèvement sont moins sanctionnés, mais en fait, vous avez un système avec des peines qui vont souvent entre 5 et 20 ans, mais qui peuvent être aggravées en fonction d'un certain nombre de circonstances, comme je vous l'ai dit. Si, par exemple, le viol est assorti de torture, eh bien, nous sommes dans une situation où, si le viol a entraîné la mort, nous sommes dans une situation où la sanction, la servitude pénale à perpétuité. Donc, pour se résumer, je dirais que les faits les plus graves, c'est la servitude pénale à perpétuité, et les faits, je dirais, qui sont un petit peu moins graves au regard des normes pénales, même s'ils sont tragiques pour les particuliers, peuvent éventuellement donner lieu à des sanctions de servitude pénale qui, en fonction des circonstances, varient entre 5 et 20 ans de prison. La vraie tragédie du Burundi, c'est que normalement, dans une situation comme celle-là, l'autorité publique devrait ouvrir des dossiers et enquêter, et elle ne l'a pas fait. Et c'est pour ça que la compétence de la Cour pénale internationale est entièrement justifiée sur le plan juridique, d'où les décisions qui ont été prises déjà par la Cour pour autoriser les enquêtes.
Les enquêtes de la Cour pénale internationale se font sur base de plus de 2000 dossiers déjà déposés par les associations des avocats.
Et pour terminer, les enquêtes sur les massacres du 11 et 12 décembre 2015 continuent malgré le refus par le gouvernement d'accorder les visas aux enquêteurs. À propos de Maître Lambert Nigalula, l'un des avocats qui suivent de près les dossiers des victimes, il fait savoir que ceux qui ont perdu les leurs ne devraient pas désespérer. Selon lui, les dossiers déposés à la Cour pénale internationale contiennent toutes les preuves nécessaires. Suivez-le.
Le massacre qui a eu lieu le 11 et 12 décembre 2015 à Bujumbura, ce sont des massacres qui rentrent dans la politique de répression des régimes de Bujumbura, et comme d'autres massacres qui ont eu lieu depuis le 26 avril 2015, le bureau du procureur de la Cour pénale internationale a déjà entamé des enquêtes, comme vous le savez, en 2015, au mois d'avril. Il avait commencé l'examen préliminaire qui s'est clôturé par l'ouverture proprement dite des enquêtes le 27 octobre 2017. Aujourd'hui, Et ça fait 3 ans. Et les informations à rapport avec ces matières étaient bien transmises dans le bureau du procureur. Ils sont sous analyse. Et comme vous le savez, les enquêteurs de cette juridiction pénale internationale n'ont pas été sur le territoire du Burundi. Mais cela n'empêche pas qu'ils continuent leurs activités, bien qu'ils n'ont pas pu être sur les lieux dans la fraîcheur des faits. Ce sont des enquêtes qui prennent généralement du temps parce que les enquêteurs doivent revérifier les informations possibles. Il est vrai que c'est une enquête qui est menée d'une manière confidentielle. On ne peut pas dévoiler l'état d'avancement parce qu'on doit préserver la protection des victimes et des témoins. Mais sinon, il faut comprendre que les enquêtes se déroulent normalement et que d'un moment à l'autre, des petits seront reclôturés, sans doute que les mandats seront lancés contre les auteurs qui ont commis ces crimes contre l'humanité. Depuis le début de la crise, plus de 2000 dossiers ont été transmis au bureau du procureur et ils sont sous analyse. Alors, le bureau du procureur va apprécier, selon l'ampleur, selon la gravité des dossiers, pour trier ce qui seront transmis pour l'ouverture d'un procès devant la Cour pénale internationale. Il faut comprendre que les enquêtes sont menées d'une manière confidentielle. Mais aujourd'hui, ce qui se passe réellement, les enquêtes sont bien menées et je pense que les victimes peuvent garder espoir. Il ne faut pas désespérer. Les vrais 3 ans, c'est pas peu, mais vis-à-vis des conditions dans lesquelles le bureau du procureur travaille et dans aucun d'autre, les auteurs de ces crimes vont certainement répondre à l'élevage.
Et voilà, c'est ici que nous clôturons le journal de la synergie des médias, la radio RPA, la radio Inzamba et la télévision Renaissance. Il était centré sur la 5e commémoration des massacres et autres crimes commis les 11 et 12 décembre 2015 en représailles des attaques qui avaient été perpétrées contre 4 camps militaires par des hommes armés. À la présentation, vous étiez avec Nadège, Ilakodze et Franck Azé. Excellente soirée à tous.